France Musique.
Jazz Ladies au sommet, premier épisode, Marie-Lou Williams.
Avec Alex Dutil.
Et R.L. Pisson.
Bonsoir à toutes et à tous pour ce premier épisode d'une série de 4. R.L. Besson, vous serez la quatrième de ces portraits de grandes dames du jazz qui sont des compositrices. Parfois, elles sont pas du tout instrumentistes, mais si je trouve, elles ont marqué la trajectoire du jazz. Sans elles, il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Alors après Marie-Lou Williams, on s'intéressera à Carla Bley et à
Maria Schneider.
Absolument. Puis à R.L. Besson, évidemment. Et Marie-Lou Williams, c'est celle qui a été peut-être la première grande compositrice dans l'histoire du jazz. Elle est née en 1910. Elle avait 20 ans quand elle enregistrait ce Nightlife. Avril 1930, Marie-Lou Williams, toute seule au piano, dans ce Nightlife qu'elle avait composé. C'était enregistré à Chicago. Et une pianiste qui vous a déjà impressionné, R.L. Besson.
Absolument. Oui, je l'ai étudié ces derniers jours, ces dernières semaines. J'étais très impressionnée par son parcours. Et en fait, elle est moderne, je trouve, pour son époque. Parce que remis dans le contexte, on est en donc 1930, elle a 20 ans quand elle enregistre.
Tout juste.
Tout juste. C'est son tout premier enregistrement, j'entends, en plus en solo. Puis piano stride. Et à un moment donné, vous avez dû entendre, elle utilise même la walking bass. À un moment donné, il y a un tout petit peu de
elle se dédouble.
Elle se dédouble, exactement. Et à un moment donné, elle a un rythme incroyable et une vigueur, comme vous disiez.
Une puissance.
Et il y a une modulation en plein milieu. Je ne sais pas si ça se faisait à l'époque. Mais
c'est Marie-Lou Williams.
C'est ça.
C'est la première trace de Marie-Lou Williams. On va beaucoup plus l'entendre ensuite avec la formation de Andy Kirk, les célèbres 12 Clouds of Joy. C'est joli, hein, les 12 nuages de joie. Elle avait suivi son mari qu'elle avait épousé à 17 ans, John Williams, qui était le saxophoniste dans l'orchestre d'Andy Kirk, et elle leur a fourni des compositions comme ce Mary's Heidi. La formation du saxophoniste Andy Kirk, les 12 Clouds of Joy, avec une composition qui est signée de la pianiste Marie-Lou Williams, Mary's Heidi. Là, on entend la compositrice et l'arrangeuse, Hérèle Besson.
Oui, absolument. Et on peut apprécier la manière dont elle utilise l'harmonisation donc des cuivres, enfin de tous les vents. Tantôt, elle harmonise à plusieurs voix. Tantôt, c'est un unisson. Il y a une belle utilisation de l'unisson, et notamment dans les graves, parce qu'elle, des fois, il y a elle double les basses avec les instruments graves. Et moi, j'ai l'impression que c'est très moderne. Et il y a même une utilisation de la sourdine à un moment dans les cris. Waouh, 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 waouh. Donc, c'est vraiment riche.
La sourdine, ça venait peut-être de son passage chez Ellington aussi. Elle avait collaboré avec Ellington quand elle était toute jeune. Voilà, en tout cas, Marie-Lou Williams, une vraie musicienne. 1938, deux ans après, elle va se retrouver dans une formation étrange. Six Men and a Girl, et bien entendu, Marie-Lou Williams, c'est la girl. Scratching the Gravel, c'est une de ses compositions. Thank you. 1940, Marie-Lou Williams au piano, à l'arrangement et à la composition de ce Scratching the Gravel pour ce groupe qui s'appelait Six Men and a Girl et le festival de couleurs.
Ah oui, très belle couleur, très bel arrangement et une utilisation des harmonies. C'est assez contrapuntique en fait, des fois, comme en plus le tempo est un peu plus lent que les précédents, on a bien le temps d'entendre toutes les harmonies et on sent un travail de contrepoint à l'intérieur des voix qui est vraiment très beau, qui fait sonner l'arrangement vraiment bien. Et aussi à l'exposition du sax au tout début, ça fait un bel arrangement.
Marie-Lou Williams sous la définition de la soie en musique.
France Musique, Jazz Ladies au sommet, Marie-Lou Williams.
Et on va se retrouver en 1944 quand Marie-Lou Williams monte une formation après qu'elle ait créé ses Kansas City Seven. Elle est en 1944 à la tête de son Chosen Five, Marie-Lou Williams et ses cinq préférés. Et justement, je me dis que Frankie Newton, à la trompette, c'est quelqu'un qui va sûrement vous parler, Irel Besson. La composition de Marie-Lou Williams, cette fois-ci, Roll M. Marie-Lou Williams et ses Chosen Five. Et dans les cinq en question, il y avait trois super souffleurs. Frankie Newton à la trompette, Vic Dickinson au trombone et Edmond Hall à la clarinette. Puis les deux autres, ils étaient la section rythmique avec Marie-Lou Williams au piano. C'était Al Lucas à la basse et Jack Parker à la batterie. Roll M, c'était presque une répétition générale de Rock Around the Clock, la maison.
oui, bah, moi j'ai trouvé, il y a la forme du blues en fait qui est dévoilée à un moment donné. Je ne sais pas si au tout début elle est peut-être un peu cachée et on s'en rend compte au fur et à mesure de l'écoute de morceaux. Et il y a des nouveaux éléments de composition, c'est-à-dire qu'il y a des backgrounds derrière des solistes. On n'avait pas écouté ça auparavant. Et puis il y a une utilisation de l'unisson. Et puis il y a des appels de cuivre à un moment. Sans, enfin, ça c'est un peu des comment on dit, des break batteries, comment ça s'appelle des... Bon, bref, en tous les cas, il y a la section rythmique qui s'arrête et il y a un moment pour les cuivres, ça fait des appels, donc ça fait des contrastes et ça donne un petit peu de mouvement. Oui, très belle découverte aussi.
Quel est votre signe astrologique, Elbesson?
Le bélier.
D'accord. Ben écoutez, vous avez été portraituré par Marie-Lou Williams, parce qu'une de ses grandes œuvres, c'est sa Zodiac Suite. Elle a créé évidemment 12 mouvements comme les 12 signes astrologiques. Et en 1945, elle a enregistré l'un d'eux, c'est Cancer. Ce sont les applaudissements du Town Hall de New York le 30 décembre 1945. Et dans ce Cancer, l'un des 12 mouvements de la Zodiac Suite de Marie-Lou Williams, elle avait évidemment un orchestre à cordes et une idée de concertante pour mettre Ben Webster, le saxophoniste ténor, en avant. Quelle tendresse chez Ben Webster. Oh, oui. Et quelle modernité dans les couleurs avec l'utilisation du basson.
Complètement, absolument.
Et RLB-son.
Pour le basson. Oui, absolument. C'est ce que j'ai noté. C'était une étonnante maturité d'écriture et de composition, en sachant que c'est la première fois qu'elle écrit pour ce genre d'effectif. Donc c'est très impressionnant l'association, comment elle utilise les vents, tous les vents et les cordes, évidemment. C'est... Oui, et l'utilisation du basson à un moment donné tout seul, mais c'est, je trouve ça très moderne. Enfin, quand on remet tout
1945.
45, c'est ça.
On est dans le jazz.
Oui. Et c'est la toute première fois, il faut penser à ça, c'est que c'est la première fois qu'elle écrit pour cet effectif-là.
Alors, cette fameuse Zodiac Suite, il y a un grand moderniste de l'époque qui va lui proposer de l'accueillir au piano dans son grand orchestre, c'est Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie qui va à Newport, au festival de Newport, en 1957, inviter Marie-Lou Williams à jouer la Zodiac Suite avec lui. Voici trois mouvements, Virgo, Libra et Aries, autrement dit Vierge, Balance et Verseau.
Thank you.
Les applaudissements sur le ciel bleu de Newport aux États-Unis, un des grands festivals américains, c'était le 6 juillet 1957, l'orchestre de Dizzy Gillespie avec Marie-Lou Williams et les compositions de Marie-Lou Williams enchaînaient trois mouvements de sa Zodiac Suite, Virgo, Libra et Aries, qui étaient arrangés pour l'orchestre de Dizzy Gillespie par la tromboniste Melba Liston. Là aussi, on a passé un siècle quasiment entre ce qu'on entendait au tout début, Hélène Besson, et cette Marie-Lou Williams-là.
Cette Marie-Lou Williams-là qu'on entend un peu pour la première fois avoir un rôle principal sur les trois morceaux qu'on vient d'écouter, parce que non seulement elle joue les improvisations, les solos, mais en fait, celle qui a le rôle principal, elle fait les transitions, les interludes, elle double les mélodies, elle est soliste, et je pense qu'elle a vraiment, c'est elle au centre, et ensuite, il y a le reste de l'orchestre qui est autour. J'avais noté qu'il y avait des parties en tutti qui étaient étonnantes, voire assez hardies. Il y a une utilisation d'harmonie, notamment des accords diminués ou augmentés, qui est assez étonnant, surtout vers la fin. Là, il y a des accords qui arrivent, c'est festif. Et il y a des enchaînements harmoniques très modernes, je trouvais, pour l'époque. Je me suis dit que...
C'était l'orchestre de Dizzy Gillespie aussi. Il n'allait pas regarder dans le rétroviseur, Dizzy Gillespie.
Non, c'est sûr. Non, mais c'est la première fois qu'on l'entend avoir un rôle en tant que soliste et interprète et musicienne, juste instrumentiste, en plus d'être compositrice principale.
Mais quelle composition aussi.
Ah bah oui.
Ça vous donne pas envie, comme elle a fait les 12 signes astrologiques, de faire, je sais pas moi, les 12 travaux d'Hercule, Hélène Besson, un jour?
Eh bien, je vais réfléchir. Absolument. Oui, j'avais pensé. C'est vrai que c'est bien. On aime bien avoir des choses cadrées comme les 4 saisons, les 12. C'est vrai qu'il y a une temporalité comme ça qu'on aime bien. Donc, moi, il faut que je réfléchisse encore. Merci pour l'idée.
1949. On va revenir en tout petit peu en arrière, Marie-Lou Williams et son orchestre dans encore une de ses compositions, Tishron. C'est une composition qui s'appelle Tishrom, on pourrait être, je sais pas moi, en 2024, et pas du tout, on est en 1949. C'est la musique, la composition, l'arrangement et le piano de Mary Lou Williams, avec son orchestre, qui c'était Idriss Suleiman à la trompette, Alan Feldman au saxophone alto, Martin Glaser à la clarinette basse, magnifiquement utilisée, Mendel Lowe à la guitare, Georges Duvivier à la basse et Denzil Best à la batterie. Quelle ruée vers la modernité,
Mais quand on écoute le début avec la ligne de basse qu'on n'a pas entendue, je pense jusque-là, avec qui utilise beaucoup de rythme, en fait, c'est très rythmique, c'est assez étonnant.
C'est l'Afrique du futur.
C'est l'Afrique du futur. Et puis la forme du morceau, on voit quasiment chaque soliste apparaît de manière assez courte. C'est presque, est-ce que c'est les 4-4 ou les 8-8 qu'on connaît actuellement? Oui, étonnant.
On comprend pourquoi un de vos confrères, un trompettiste, Dave Douglas, s'est intéressé à enregistrer des compositions de Mary Lou Williams. Je lui ai dédié un album, d'ailleurs. Mmh. Comment aujourd'hui les jeunes musiciens du Umlaut Orchestra sont en train d'enregistrer et de tourner avec un répertoire sur Mary Lou Williams. Ça titille les oreilles des modernistes, quand même. Hein.
Très bien, c'est une très bonne chose. France Musique, Jazz Ladies au sommet, Mary Lou Williams.
Eh bien, il était temps de reconnaître Mary Lou Williams comme une femme du jazz. On a surtout écouté la compositrice, et on a eu raison, je pense, Hervé Besson, la pianiste. Mais voici qu'en 1946, elle s'entoure d'une formation exclusivement féminine. Ben tiens, elle était pionnière là aussi. C'était ses Girls Stars Harmony Grids. Thank you. Harmony Grits, Marie-Lou Williams et ses girl stars, à savoir Margie Iams au vibraphone, Mary Osborne à la guitare, June Rottenberg à la basse et Rose Gottesman à la batterie. C'était en juillet 1946.
Oui, et je crois avoir reconnu la forme de ce qu'on appelle un anatole, c'est-à-dire une structure de AABA, un anatole en mi bémol, et c'est la première fois que je l'entends jouer hein, une structure harmonique comme ça, donc c'est une suite harmonique bien définie, codifiée, et le dernier thème était assez étonnant, en homorythmie totale, mais avec un parallélisme dans l'écriture et dans l'arrangement assez étonnant, et on en parlait tout à l'heure, effectivement, par rapport à ce Girls Band, c'est ça comment il s'appelle?
Girl Stars.
Ce que j'ai dit, c'est que lorsque le critique de jazz Leonard Feather a l'idée de produire un orchestre de filles, l'idée n'enthousiasme que moyennement Marie-Lou, qui n'aime pas se voir imposer ses partenaires. Et je me suis dit que cette Marie-Lou, elle devait avoir un bon caractère et c'est très bien.
C'est une remarque qu'on trouve dans le livret de cette anthologie remarquable consacrée à Marie-Lou oui. Williams qui s'appelle The First Lady in Jazz, oui. 1927-57.
Oui.
Sélection et commentaires signés Jean-Paul Ricard.
Oui.
Il faut lui rendre hommage parce que c'est un travail de musicologie absolument magnifique.
Tout à fait.
Don Carlos, vous savez qui c'est, R.L. Besson? C'était Don Byas. Don Byas à Paris en 1953 avec Marie-Lou Williams. Je trouve que quand ça s'appelle Don Carlos meets Marie-Lou, ben, c'est presque une série télévisée. Maris Walls. À Paris en décembre 1953, Don Byas au saxophone ténor sur la composition de sa pianiste Marie-Lou Williams, Maris Walls. Il y avait Alvin Buddy Banks à la contrebasse et Gérard Pochonnet était le batteur. On est dans un jazz très jazz du coup à ce moment-là sur ce qui pourrait être presque une jam session, sauf que tout le monde joue superbement à la Besson.
Oui, et là, c'est le titre porte bien son nom. Effectivement, Mary's Waltz, c'est effectivement une valse à trois temps et assez rapide. Parce que et il marque surtout le premier temps. C'est étonnant, le contrebassiste fait un, dun, dun, et c'est deux, trois, deux, trois. Ça va assez vite et la construction harmonique, la grille harmonique est assez complexe.
Oui, elle n'est pas si évidente que ça.
Elle n'est pas si évidente. Et il y a des accords nouveaux que je n'avais jamais entendus précédemment qui sont assez moderne, des accords majeurs, et le tout dernier accord qu'on a écouté, c'est même un plus 4, je crois, un accord majeur avec le triton, le fameux triton, et ça, on ne l'avait jamais entendu encore dans les précédents.
À cette époque-là, on est en 1953, là c'était à Paris, elle voyageait en Europe, Marie-Lou Williams, et on la retrouve à Londres dans un cool bongo. Cool Bongo, enregistré à Londres en janvier 1953. Marie-Lou Williams au piano sur toujours l'une de ses compositions. Il n'y a que des compositions de Marie-Lou Williams dans cette émission. Ken Napper était à la contrebasse, Alan Ganley à la batterie et c'est Tony Scott qui jouait des bongos. Et un donc, autre aspect de Marie-Lou Williams,
complètement, c'est la Besson. Et c'est sa première fois en Europe. Donc, faut remettre dans le contexte. Elle a 42 ou 43 ans. Elle vient en Europe pour la première fois. Donc, ça doit être quand même un sacré choc. Et à Londres. Et effectivement, cool bongos. Donc, on pro, effectivement, il y a une grande part d'utilisation du bongos, qui est un instrument de percussion assez petit. Les bongos, il y a les congas qui sont beaucoup plus hautes et grandes. Et le bongo, c'est vraiment tout petit. On le met entre ses jambes, comme ça. Et il a une grande partie de solo et elle lui laisse une grande partie. Alors c'est peut-être la première fois qu'elle joue avec des bongos, on ne sait pas.
Et puis en plus, une couleur comme ça afro-cubaine.
Alors,
et bien sûr, Dizzy Gillespie a été un des pionniers là-dessus, mais c'était assez original à l'époque, surtout dans en rajoutant ça à un trio piano, basse, batterie. Aujourd'hui, quand on écoute Ahmad Jamal avec un percussionniste, on trouve ça normal.
Oui. Mais à l'époque,
il y a eu des précurseurs comme Marie-Lou Williams. Un dernier aspect de Marie-Lou Williams et R.L. Besson, c'est son côté spiritual. Mmh. Spirituel tout court, au sens fort du terme. Mais elle s'intéressait, elle a joué d'ailleurs et enregistré des spirituals à la toute fin de sa vie. Mmh. Elle est disparue en 1981, à 71 ans, Marie-Lou Williams. Mais en 1962, elle avait enregistré un album avec des chœurs, avec le chœur de Howard Roberts. Les Howard Roberts Singers. Et Marie-Lou Williams, dans une composition qu'elle avait imaginée, un hommage à la religion qu'elle avait pratiquée, Saint Martin de Porres.
C'est Marie de Porres, ye gentle creatures, tame and wild.
Martin de Porres, composition de Mary Lou Williams dans son disque rare de 1963, Black Christ of the Andes, le Christ noir des Andes, avec ce chœur qui est absolument magnifique de Howard Roberts. Ça a été enregistré donc en studio à New York le 9 octobre 1963. Un autre aspect encore, une commande d'elle-même pour son propre label qu'elle avait créé à ce moment-là, Mary Lou Williams. Oui. Et ça aussi, c'est une pionnière de ce côté-là, Mary Records. Personne ne voulait le sortir commercialement. Elle a dit, je vais créer mon propre label et le sortir. R.L. Besson, quelle leçon de composition encore, ambitieuse.
Oui, très ambitieuse, et de composition et d'arrangement des voix, parce qu'on entend vraiment les couleurs. C'est un vrai voyage émotionnel aussi, spirituel, de couleurs, d'harmonie. C'est impressionnant, cette palette là qui traverse à travers tout ce morceau là. Moi, c'est une grande découverte, je connaissais pas du tout, et a cappella en plus. On l'entend un petit peu à un moment jouer Mary Lou Williams au piano, mais dites donc.
Voilà, merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage autour de Mary Lou Williams et R.L. Besson. La semaine prochaine, ce sera au tour de Karl Ablé. Et avec nous, pour faire cette émission sur France Musique aujourd'hui, Pierrick Charles, Gérard Chan, Emmanuel Lacaze et Fabien Flora.
À réécouter sur francemusique.fr.